Champagnac, le parricide des Landes. Jean d'Aubat, père, possédait dans la commune de Logan deux domaines nommés Baquet et Pocheton, distants l'un de l'autre d'environ un quart de lieue. Il demeurait dans le dernier avec son fils, sa bru et ses petits-enfants. Celui de Baquet était habité par une femme, Jeanne Alibert, avec laquelle d'Aubat père paraissait entretenir des liaisons suspectes. Il se rendait presque tous les jours au petit Baquet, il en travaillait lui-même les terres, il passait souvent la nuit, et quand il rentrait dans son domicile, il n'y arrivait jamais qu'à une heure avancée de la soirée. Ces liaisons de d'Aubat père avec sa locataire avaient été le sujet de fréquents reproches de la part de son fils, qui se plaignait que la maison paternelle s'appauvrissait de jour en jour au profit de la femme Alibert. D'un autre côté, d'Aubat père était querelleur, tracassier et d'une probité douteuse. Il avait comparu 3 fois en police correctionnelle pour voie de fait et 2 fois pour vol. Ses procès nombreux l'avaient forcé de vendre successivement différentes pièces de terre, et pour éteindre les mauvaises affaires qui s'étaient suscitées, il était sur le point d'aliéner aussi l'un de ses domaines. D'Aubat fils voyait de mauvais œil l'inconduite de son père et se plaignait fréquemment de ce qu'elle exposait ses enfants à une misère prochaine. Ces causes diverses d'exaspération étaient dans toute leur force lorsque le 15 décembre 1826, d'Aubat père, revenant le soir selon sa coutume, fut atteint d'un coup de fusil tiré presque à bout portant. 40 plombs le frappèrent à la tête, mais cette blessure n'occasionna qu'une maladie de 8 jours. Une plainte fut portée par d'Aubat père, mais elle n'eut pas de suite. Toutefois, ce coup de fusil fut imputé à Fiton, surnommé Couroc. Peu de jours après cette première tentative, d'Aubat père faisait le soir son voyage accoutumé, accompagné d'un petit chien roux, lorsque cet animal s'arrêta tout à coup devant un buisson contre lequel il aboya d'abord. Mais il ne tarda pas à se taire et fit succéder à ses aboiements des mouvements de joie, comme s'il eût aperçu quelqu'un de la maison. Et en effet, l'homme caché dans le buisson était d'Aubat fils, à qui son père reprocha sévèrement ce guet-apens. D'Aubat fils se retira, et comme son père fit à plusieurs confidences du danger qu'il avait couru, ce fils dénaturé disait « Ah, mon père a bien eu peur ce soir-là. Il avait bien raison, nous étions 2 lurons qui ne l'aurions pas lâché aisément. » Et il dit même, en parlant de cette circonstance, « Oui, je suis allé, j'y reviendrai s'il le faut. » Pendant l'intervalle du 15 décembre au 31 janvier, d'Aubat fils tint une foule de propos menaçants qui furent attestés par de nombreux témoins. Il fit même à plusieurs individus des propositions de complicité. Il s'agissait toujours de tuer ou d'empoisonner son père. Dans la soirée du 31 janvier 1827, les nommés Galabos et Lespèze étaient assis au coin de leur feu. Tout à coup, la détonation d'une arme à feu se fait entendre. Ils prêtent l'oreille, et la voix d'un homme qu'ils reconnaissent pour celle de d'Aubat père parvient jusqu'à eux. Un petit chien aboyait, et les chiens de leur maison répondaient à ses aboiements. Ils distinguent même le bruit de coups violents portés sur le corps d'un homme. D'Aubat injuriait ses meurtriers, puis je leur demandais grâce de la vie, et bientôt on n'entendit plus rien. Curieux d'éclaircir leurs soupçons, Galabos et l'espèce s'acheminèrent vers la maison de d'Aubat, située à peu de distance de la leur, et n'y trouvèrent ni le père ni le fils. Il était environ 8 heures du soir. 3 heures après, d'Aubat fils se rendit chez un sabotier de la commune. Il était pâle, troublé, tout tremblant. Et sans que l'on provoquât en rien ses confidences, il se mit à dire Oh, j'ai entendu un coup de fusil, beaucoup de bruit et de tapage du côté de Baquet. Je crois qu'on a tué mon père. Oui, oh, je crois bien qu'on l'a tué. Vous serez peut-être ainsi que moi, appelé en témoignage. Dites que je suis venu ici entre 6 et 7 heures. Je vous donnerai quelque chose. Le lendemain, 1er février, le chien de Daubat, père, allait et revenait sans cesse, poussant des hurlements plaintifs du lieu où gisait le cadavre de son maître au domaine de Baquet. Daubat fils, qui s'y rendit dans la matinée, passa sur le lieu du crime, et le chien aboya de même quand il l'aperçut, mais il ne le suivit pas. Dans l'après-midi du même jour, le corps inanimé du malheureux Daubat fut trouvé à côté du chemin qu'il avait dû suivre pour revenir la veille de Baquet à sa maison. Il avait été traîné dans un fossé plein d'eau. Il tenait encore dans ses mains quelques touffes des bruyères auxquelles il avait sans doute essayé de s'accrocher. Le sol, fortement foulé, indiquait une lutte longue et pénible. On voyait, suspendus aux broussailles, une grande quantité de cheveux gris de la victime. Le cadavre portait les marques de 12 blessures, dont 7 à la tête. Un grand nombre de personnes se rendirent sur le lieu du crime. Il fallut à plusieurs reprises presser Daubat fils d'y venir aussi. Il refusa d'aller lui-même instruire le maire de la commune de cet événement. Et ce ne fut qu'après beaucoup de difficultés qu'il consentit à passer la nuit auprès du cadavre avec les autres habitants du village, en attendant l'arrivée de l'autorité. Il s'y décida enfin. Et chose incroyable, il dormit paisiblement à côté des restes sanglants de sa victime. Le lendemain, Daubat fils s'égayait au cabaret, buvait, faisait du bruit comme de coutume, et quelqu'un lui ayant dit qu'il pourrait bien être arrêté à l'occasion du meurtre de son père, il répondit: Ah, vous voulez peut-être dire que je l'ai tué? Bon. Mon père est sous terre et mon père y restera. Boba fut en effet arrêté, et des indices graves provoquèrent aussi l'arrestation de Fiton, que le coup de fusil du 15 décembre et sa haine bien connue contre Daubat père avaient compromis. Daubat se retrancha d'abord dans un système de dénégation absolue, mais bientôt, de lui-même, il fit appeler le procureur et le juge d'instruction et leur fit spontanément l'aveu détaillé de son crime. Seulement, il soutint qu'il n'avait pas prémédité le meurtre de son père et dénia formellement tous les discours et tous les actes qui pouvaient concourir à la preuve contraire. Ce misérable semblait croire, dans son ignorance, que l'absence de la préméditation pouvait beaucoup adoucir sa peine, et que le nombre de ses enfants, avec la franchise de ses aveux, le ferait réduire à un emprisonnement plus ou moins long. Nous allons donner en substance les révélations de l'accusé. Les liaisons de mon père, dit-il, avec Jeanne Alibert, pour laquelle ainsi que pour sa fille, il dépouillait notre maison, sont la cause première du désordre de ses affaires, de nos discussions et de mon malheur. Le soir du 31 décembre, et lorsque je sortis de chez moi, je ne pensais pas à tuer mon père. Je suivais le chemin qui conduit au petit Baquet, mais pour aller à un cabaret du voisinage. Je trouvai sur le bord de la route du Luc armé d'un fusil. Il me dit qu'il attendait mon père pour le tuer. Je ne lui fis ni observation, ni reproche, et m'éloignai de lui de quelques pas. Et 3 ou 4 minutes après, mon père vint à passer. Duluc lâcha sur lui un coup de fusil qui ne l'atteignit que faiblement, ou peut-être ne l'atteignit pas du tout. Mon père alors s'écria: Oh, je vous connais, vous allez avoir affaire à moi! Et m'apercevant, il courut sur moi, et nous nous saisîmes aux cheveux. Pendant cette lutte, Duluc, se servant de son fusil comme d'une massue, emporta plusieurs coups à mon père, qui fut renversé, et quand il fut par terre, je lui portai moi-même plusieurs coups d'une fourche de fer que je n'avais pas prise pour cet usage, et Duluc et moi, nous l'avons achevé. Le petit chien de mon père aboyait constamment. Lorsque nous crûmes que mon père était bien mort, nous le traînâmes dans un fossé plein d'eau, et nous nous séparâmes. Pour moi, dans le premier moment, je n'osais pas rentrer dans ma maison. Je ne revins que plus tard, et je cachai ma fourche dans le couvert en paille d'une cabane où depuis on l'a retrouvée. Duluc, après son arrestation, fut confronté avec Doba, qui persista dans sa déclaration. Il ajouta même que, 4 mois avant le crime, Duluc lui avait offert de le débarrasser de son père, moyennant une somme de 600 francs. Et ce qui rendait la complicité de Duluc encore plus probable, c'est que Doba père était d'une force prodigieuse et que son fils seul n'aurait pas même osé l'attaquer. Toutefois, les débats ne produisirent aucune charge contre Duluc. Le parricide répéta devant les juges ses effrayants aveux avec un sang-froid inconcevable. Il répéta, du ton de la plus complète indifférence, les détails les plus minutieux de la mort violente de son père. Sa physionomie ne changea pas une seule fois. Sa voix ne fut pas un seul instant altérée. Les débats se prolongèrent pendant 4 jours. 40 témoins furent entendus. L'accusation n'avait pas de grands efforts à faire contre Doba. Elle fut soutenue avec force contre Duluc et faiblement contre Phéton. Maître Laurence, défenseur de Doba, avait une tâche impossible à remplir. Il se borna à déclarer son impuissance et le fit avec une éloquente franchise. « Si, comme les débats le laissent voir, dit l'avocat en terminant, ce profond abrutissement fut dû à l'indifférence coupable de son père, aux déplorables exemples qu'il lui donna pendant presque toute sa vie, hélas, ce père a été bien cruellement puni. Si la stupidité grossière de l'accusé ouvrit seul et si facilement son cœur à la pensée du forfait que sa main consomma, vous le plaindrez peut-être, messieurs, sans lui pouvoir pardonner, et comme nous, vous appellerez de tous vos voeux le temps où l'instruction pourra pénétrer davantage dans nos campagnes, jusque dans la plus misérable chaumière, et en rendant les habitants meilleurs, en les éclairant. » La réponse du jury fut affirmative sur la culpabilité de Doba et négative quant aux 2 autres accusés, qui furent sur le champ mis en liberté. Doba, interpellé sur ce qu'il avait à dire sur l'application de la peine, répondit qu'il suppliait la cour d'avoir compassion de lui à cause de ses 4 enfants que sa femme ne pourrait pas nourrir. Prière étrange dans la bouche d'un parricide. D'ailleurs, il entendit son arrêt avec calme et sans donner aucun signe visible d'émotion.